RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules en direct avec vous, bien évidemment, comme tous les jours sur RMC la radio, RMC Story la télé, Barbara Lefebvre et des nôtres, l'enseignante Abel Boyer l'éducateur et Charles Consigny l'avocat. Ce qui fait l'essence même des GG, c'est la discussion que nous pouvons avoir ensemble tous les jours depuis 20 ans au 32-16. Si vous êtes fidèle des grandes gueules, vous vous souvenez que la semaine dernière, on a vu quand on avait évoqué l'Iran et la flotte américaine qui arrive dans le golfe Persique, on avait eu Eshan au téléphone au 32-16, commercial, qui vit en région parisienne et qui nous parlait de son envie de se débarrasser de ce putain de régime, il avait dit lui-même, et que Donald Trump frappe. Eh bien, Eshan, on lui a dit, est-ce que vous pouvez venir dans les GG nous parler de ce que vous ressentez, et il sera tout à l'heure à 11h avec nous en studio.
D'autant Eshan. Plus que Eshan nous a raconté qu'il est arrivé en France à l'adolescence, il avait 13-14 ans, il est arrivé en 3e, et sur qui il est tombé en 3e, dans quelle classe?
La classe,
il y avait une grande gueule. Il y avait une grande gueule, il y avait Charles Consigny.
Absolument.
Et Charles se souvient de Charles en 3e. Donc il y a alors des retrouvailles émouvantes.
Nous avions des échanges géopolitiques déjà à l'époque. J'étais expert de toute la région.
Mm-hmm. Bien sûr.
On en discutait. Et tu lui avais dit un jour il faudra que les États-Unis interviennent.
J'avais dit. Un jour, Donald Trump deviendra président de la République et à ce moment-là, le dossier iranien bougera. J'avais dit, prépare-toi.
Eshan, auditeur des GG au 32-16, viendra tout à l'heure parler de l'Iran avec nous à 11h. En attendant, c'est la deuxième heure des GG des Grandes Gueules. Il va être beaucoup question de politique avec vous. Tiens, on va commencer tout de suite par le budget. Parce que la comédie politique se termine aujourd'hui, normalement, avec l'adoption définitive.
Pourvu que ça dure, la belle figure.
Pas là pour faire la morale, moi je ferai mon devoir.
Pourvu que ça dure, la belle aventure.
Je serai pas un problème, je vous le dis comme je le pense.
Pourvu que ça dure, la belle figure.
J'ai un côté moins de soldat, donc j'ai accepté évidemment la mission que le président m'a demandé.
Pourvu que ça dure, la belle aventure.
Il n'y a pas d'avancée quand on fait du surplace.
La, 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 la.
Ça dure finalement, Sébastien Lecornu, il est toujours là, il va faire accepter son budget, il va faire passer son budget 2026. Est-ce que c'est mission accomplie et crise politique terminée pour Sébastien Lecornu? 32-16 pour en discuter avec les GG.
Oui, les deux motions de censure qui seront examinées aujourd'hui encore par l'Assemblée nationale vont être rejetées, sauf énorme surprise en fin d'après-midi. Donc le budget Lecornu va passer. Les socialistes en fait... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ne revendiquent plus Matignon. Vous n'entendez plus Olivier Faure dire « il nous faut Matignon ». Ben non, ils ont Sébastien Lecornu. C'est mieux que Lucie Castet parce que eux-mêmes, les socialistes disent « jamais on n'avait imaginé obtenir autant de concessions ». Eux-mêmes sont surpris. Ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites, des hauts impôts pour certaines entreprises, la surtaxe sur les hauts revenus qui est maintenue, la suppression de quasiment toutes les économies importantes et parfois un peu polémiques qui étaient prévues dans les budgets, notamment le budget de la Sécu. Donc Lecornu va faire passer son budget. Il a réussi à protéger les députés d'une censure et d'une dissolution. Il a réussi à protéger Emmanuel Macron d'une démission anticipée. Donc mission accomplie pour Lecornu. Et je sais pas si vous entendez, maintenant c'est Lecornu président, c'est-à-dire qu'il rentre dans la liste des présidentiables et les sondages commencent à sonder
les éditorialistes de l'extrême centre.
Les sondages commencent à sonder Sébastien Lecornu candidat à l'élection présidentielle et je vous fais le pari qu'on en parlera de plus en plus dans les semaines à venir.
Voilà. Surtout les Français d'ailleurs, les Français le réclament. Tous les jours dans la rue, j'entends, quand je discute le avec des gens,
président,
vraiment, Lecornu, président. On t'attend,
regarde, voilà,
on t'attend.
Voilà.
Ah oui. C'est là qu'on voit d'ailleurs que les instituts de sondage sont en phase avec l'opinion. Parce que franchement, tester Lecornu, là, ils sont en phase. Là, je le dis. Là.
Il s'est bien démerdé, si j'ose dire.
Oui, ça s'appelle la tambouille politicienne, ça s'appelle sauver la souplette et sauver mon siège.
Mais pire
parce que ce qui est drôle, c'est que, alors on entend la droite dit, c'est un budget socialiste, c'est horrible. On entend
on
la gauche,
la droite dans
la gauche LFI et écolo. C'est un budget d'austérité. Donc en fait, si on regarde bien, le RN non plus n'est pas content. Personne n'est content de ce budget, mais on l'a quand même. Pourquoi ? Pour sauver les miches des socialistes, des LR et des macronistes qui sinon dégagent plus vite que l'éclair parce qu'évidemment les Français, c'est bien connu, veulent le cornu comme président.
Oui, mais il y avait un argument.
Ah, la blague.
Oui, mais Charles, il y a eu un argument qui a été martelé ces dernières semaines. Oui. Mieux vaut un mauvais budget que pas de budget du tout. Et cet argument, je l'ai entendu chez les LR, au PS.
C'est tout.
Mais ils veulent tous rester en poste.
C'est normal. Parce que si on repart devant les élections, ils dégagent tous. Non, le cornu, c'est un super joueur de flûte. Donc oui, pour lui, la mission est réussie. Il avait dit, nous discuterons, vous déciderez, pas de 49-3. Il y en a eu. Il a menti aux grands revenus et aux chefs d'entreprise parce qu'il avait parlé à chaque fois de mesures exceptionnelles. Finalement, on les prolonge en 2026. Donc tout le monde se retrouve surpris. Pas de hausse d'impôt sur le revenu, mais il y a des petites taxes, hein, plus 2 euros sur les colis d'une valeur de moins de 150 euros, les colis qui viennent de pays extra-communautaires.
Les petits colis,
ouais. Et voilà, les petits colis, il y a des petites taxes par-ci, par-là. Donc pour lui, la mission, elle est réussie. Mais il a menti à tout le monde.
Sur le 43, oui.
Mais même, il a menti aux grandes entreprises. Les mesures devaient durer un an. Dans ce cas, tu annonces une vision, tu dis on fait un effort sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, mais tu peux pas laisser les gens dans le suspense à chaque fin d'année.
Il a pris une grande mesure. Ah non. Le repas à 1 euro.
Ah oui, bravo. Ouais,
ça, c'est beau. Ça
plaît aux socialistes.
Mais
ça va changer la vie des étudiants, bien entendu.
La France est belle et grande, c'est beau. Le repas à 1 euro.
Les amis, il faut regarder les choses
telles qu'elles sont.
Comme elles sont. Je veux dire, le jeune Le Cornu est habile politiquement, mais quel est le sujet ? C'est de garder le pouvoir. Quelle est l'occupation absolu de l'homme politique en France, c'est soit prendre le pouvoir, soit garder le pouvoir. Donc, en l'état, quelle était l'idée ? C'était pour Emmanuel Macron arriver jusqu'au bout de son mandat, pour les députés ne pas être dissous, et pour le cornu, au passage, s'il pouvait rester à Matignon, c'était bien. C'est ça le vrai sujet. Le reste, cette histoire de un mauvais budget vaut mieux que nanana. C'est un budget qui ouvre les vannes de la dépense publique comme rarement en France à une période où tous les gens sérieux nous disent que on devrait au contraire faire l'exact inverse, c'est-à-dire diminuer drastiquement nos dépenses publiques, couper les robinets. Ce budget fait le contraire. Donc moi, je suis pas sûr que pas de budget du tout n'était pas préférable à ce mauvais budget, puisque de toute façon, ce qui va arriver à brève échéance, c'est qu'on va devoir prendre des mesures difficiles qui vont mettre tout le monde dans la rue, parce qu'on va sinon être en situation de quasi-faillite. Et là, quel est en ce moment le grand sujet de ce bloc central, c'est de garder le pouvoir après 2027. Là, tout le monde est en toupie, en orchestre.
En fait, vous dites que Sébastien Le Cornu devient présidentiel.
Ils se disent qui on peut mettre. Alors Macron se dit comment je peux faire pour que ce soit vraiment quelqu'un qui soit en phase avec moi-même, pour que je reste au pouvoir par délégation après 2027. Et puis les uns et les autres se disent voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour rester après 2027. Je pense que les Français doivent ouvrir les yeux là-dessus, parce que moi, je pense que la France a besoin d'une alternance. Et donc, il faut qu'ils soient lucides sur le fait que toute cette classe politique, de Prisca Thévenot à Maud Bréjon, en passant par Le Cornu, en passant par Emmanuel Macron, tout ce bloc-là qui a déclassé le pays depuis 10 ans. Faut dire les choses comme elles sont. La France est déclassée depuis 10 ans. Elle a dégringolé depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est garder le pouvoir après, continuer après. Et je pense que le pays, lui, n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il faut un changement, quelle que soit l'intensité du changement. Je pense qu'il faut un changement et qu'il faut
oublier les complices de la Macronie, cher Charles, parce que tu as raison de cibler les macronistes, mais tu as oublié les complices socialistes et les complices LR.
Alors les LR,
parce
on va en parler dans un instant.
Le macronisme,
LR, ils sont aux fraises.
Le macronisme n'a plus aucune raison d'exister depuis déjà même 2022, mais il se maintient grâce à des petites magouilles politiciennes. Donc quand tu dis, Olivier, il a réussi, bien sûr, sa réussite à lui personnelle,
la réussite,
réussite de la Macronie. Macron. Mais quel est le niveau de détestation de la Macronie en France? Enfin, quand même, Macron, il a 80% de
Et il remonte
de
un peu dans les sondages,
évidemment,
grâce à son discours,
grâce à ses lunettes. Et tu verras que les Français ouvriront les yeux sur le génie stratégique de Donald. Je le dis.
Ah bon?
Mais oui. Et donc, ils comprendront à quel point.
En Iran, on a du mal à comprendre.
Mais t'inquiète, parce que vous, évidemment, si toi, tu attends qu'ils te disent exactement toute sa pensée, bref, il est autrement plus malin que l'autre avec ses lunettes de soleil.
La pensée de Trump.
Mais s'il y en a un qui a des résultats, c'est plus lui que Macron, excuse-moi.
Économiquement, pas tellement.
De toute façon.
Il a des résultats même aux États-Unis. Ne parlons pas de lui.
Le principal, même vis-à-vis des agences de notation, vis-à-vis des prêteurs, vis-à-vis de nos créanciers.
Vous avez vu ce qu'a dit Moody's?
Le plus important, c'était
Moody's
pas
a dit
qu'on
allait
un budget.
On était aux fraises. Moody's a dit qu'on est aux fraises.
Moody's a dit vendredi, l'agence Moody's a dit que les 5% de déficit fixés par ce budget ne seront pas atteints, ça sera 5,2. Je reviens sur ce que dit Abel. Moi, je trouve qu'on abîme encore plus là, en ce moment, la parole politique. C'est-à-dire que le Cornu a dit, il n'y aura pas de 49.3. Finalement,
Il a menti.
Il y a eu plusieurs 49.3 pour faire passer le budget. Il y en a encore deux, tout à l'heure. Donc il y a un problème avec la parole politique. Sur les déficits, une fois plus, on annonce 5, on sait qu'on fera 5,2, voire 5,3. Donc finalement, il n'y a aucune réduction de déficit. C'est ça qui restera quand même. C'est la parole politique, que vaut-elle? Et Olivier Faure est incompréhensible. C'est à la fois, on se dit, tiens, il se rapproche de Le Cornu, donc il se détache de la gauche mélenchoniste.
Au municipal, ils sont tous en train, l'autre, se rapprocher des LFI, s'arrêter.
Il revient à ce qu'était le Parti Socialiste, plutôt un parti de gouvernement social-démocrate, avec François Hollande, etc. Et puis finalement, il veut faire une primaire avec Marine Tondelier et François Ruffin.
Et au municipal, il soutient les LFI.
Il repart sur sa gauche, Olivier Faure. C'est incompréhensible. Donc, je trouve que de cette période restera quand même
un grand goût.
Mais même Barbara,
ce n'est pas incompréhensible.
Barbara.
Si tu veux garder ta place, t'es prêt à tout. C'est pas du tout incompréhensible. T'es prêt à trahir tout puisque tu n'as pas de colonne vertébrale.
Mêmes, en fait. Oui,
si tu veux garder ton siège de maire, eh ben, tu embrasses la LFI. Tu veux garder ton siège de député, ben, tu embrasses les macronistes. Tu veux garder ton siège de sénateur, ben, t'embrasses les LR. De toute façon, ces gens-là n'ont aucune colonne vertébrale, aucune dignité. Ils piétinent la République, ils piétinent la démocratie, mais attendez 2027. C'est pas afuera, ça va être un carnage. Et je vais vous dire, l'UMPS l'aura pas volé et on aura le face-à-face LFI, RN et c'est tout ce que les Français auront mérité. C'est bien triste pour eux, mais tant pis pour eux, ils l'auront bien mérité.
Charles,
c'est une très forte possibilité. Non, mais elle a dit au final, je voulais rebondir, que même aux dernières législatives, suite à la dissolution, LFI a servi de marchepied, y compris à des macronistes. On peut citer le cas d'Elisabeth Borne, qui a été réélue, et bien d'autres. Donc, effectivement, je pense que le cynisme et la confusion de la classe politique a atteint un niveau, je pense, que l'on n'a jamais vu sous la Ve République. Parce que avant, quand les politiques te mentaient, c'était quand même mieux enrobé. Aujourd'hui, la personne vient, ment et utilise le fait que tellement les Français sont cons, en fait, que il y a une situation d'urgence, la dette est tellement importante, mais qui a creusé la dette? Et qu'on nous dise pas que c'est à cause de la période Covid, comme tu l'as dit, Charles, ça fait 10 ans que ça ne va pas.
Là, ça continue, quoi qu'il en coûte.
Oui, non, mais je pense que Barbara a raison d'imaginer ce second tour Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Le Pen, parce que ces deux forces représentent une alternance aujourd'hui. C'est ça l'os avec cette connerie de bloc central, c'est que quand les gens veulent changer, ils sont obligés d'aller ailleurs que dans ce bloc central. Donc moi, je pense que ça ouvre effectivement le chemin à ça, parce que la classe politique s'est démasquée, en fait. Là, elle a vraiment montré au grand jour ce qu'on suspectait, et ce qui est taxé d'ailleurs de populisme quand c'est dénoncé. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de dire que la classe politique vit de petits arrangements pas glorieux et qu'elle est prête à revenir sur tout ce qu'elle a professé et à retourner sa veste et à le faire contre l'intérêt des Français, vous êtes taxé de populisme, alors que là, c'est vraiment ce qui s'est déroulé sous nos yeux. Donc je pense que ça ouvre la voie à ça et à une candidature anti-système.
On va écouter Valérie, qui est formatrice en anglais, fidèle des GG du côté des Alpes-Maritimes. Bonjour Valérie.
Bonjour Alain, bonjour les GG.
Mission accomplie pour Sébastien Le Cornu?
Ah non, mais attendez, alors je vais rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit. Mais quelle mission? Mission pour ruiner la France? Moi, je suis... Alors, j'ai 4 adjectifs. Je suis effarée, je suis dégoûtée, je suis en colère. Mais alors, je suis hyper soucieuse. Parce qu'on va où, comment et avec qui? faire adopter un budget, on nous a suffisamment, justement, comme vous l'avez dit, répété, ah, mais si on n'a pas de budget, ah, il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget. Mais on va où? On a des déficits catastrophiques. Les politiques ont réussi. Ah, ça, par contre, ils ont réussi. Ils ont tous gardé, sauvé leur place. Exactement. Mais là, c'est quoi le projet? C'est quoi l'avenir? Avec qui? Comment est notre économie, nos industries, écoutez, catastrophée. Quand je parle autour de moi, moi je suis normalement de droite, d'accord? Ils ont réussi quelque chose, c'est que je suis tellement dégoûtée que je ne me déplacerai pour rien, ni pour les municipales, ni pour les présidentielles. Et ils ont réussi à me dégoûter de tout. Je me fais du souci pour tout. Je me demande vers où on va, qu'est-ce que va devenir la France. Le problème, c'est que on n'a même pas quelque chose pour nous motiver derrière. Mm-hmm. On ne sait pas vers qui se tourner. Moi, c'est ça que je reproche. Et un budget comme celui-là où on vous annonce gaiement, oh ben c'est pas grave, hein, on va être autour de 5%, hein, c'est ça, de déficit. Oh,
5,3, 5,4 ouais, maintenant même.
Non, mais Barbara,
118% du PIB au niveau de la dette.
Mais j'y crois pas aux 5%. Moi, je pense qu'on va se rapprocher même du 6%.
Oui, bah, c'est pas grave. Ils s'en foutent. Oui, de toute façon, après eux, le déluge. C'est nous qui payons, c'est Nicolas qui paye.
Valérie, que ça vous dit?
Les enfants, Nicolas.
De la politique, je comprends, mais pourquoi ne pas même aller voter au municipal? Parce que pour le coup, l'élection municipale, c'est votre maire, c'est vraiment lui qui gère votre quotidien, quoi. Donc.
Alors déjà, moi, le maire, j'en suis absolument déçue. Et puis, alors, il y a un truc aussi qui me fout. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui me met en colère, pardon. C'est que maintenant, vous avez des listes. Alors, vous avez les programmes, hein. Et vous savez même pas, vous ne savez même plus pour qui vous votez, parce que sur les documents que j'ai reçus, les quelques tracts, on ne vous met même plus de.
Ils veulent plus.
Ouais,
oui, voilà. Ouais. Ils veulent alors, plus mettre.
Ça, voilà, c'est le nouveau truc. Alors on mélange tout, hein. Ouais. On fait un petit peu de social, on fait un petit peu de sécurité, on vous mélange tout, mais on ne sait même plus pour qui on vote. Donc les partis ne se mettent même plus en avant. Non, mais attendez, vraiment vous dégoûter.
C'est la confusion. Non, mais c'est vrai qu'il y a une confusion totale. Et comme le dit Barbara et Charles, c'est que les Français, pour sortir de cette confusion, opteront peut-être pour un vote plus radical, plus
la radicalité qui représentera l'antisystème.
Alors Valérie, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de Peymenade dans les Alpes-Maritimes. Salut Valérie. Dans un instant, on va continuer d'en parler avec Frédéric. Frédéric qui est gérant de société, il est du côté du Loir-et-Cher. Il veut dire un mot sur Sébastien Lecornu, encore sur le spectacle qu'il a vu. Et puis ensuite, on parlera de la droite avec, en Savoie, une victoire du candidat UDR. L'UDR, vous savez, c'est le parti d'Éric Ciotti. Donc on a l'impression que vraiment le curseur se déplace petit à petit et que les LR, la famille Wauquiez-Retailleau, est en train d'être marginalisée, presque en voie de disparition. Vous venez prendre la parole au 32-16 avec les grandes gueules, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui Charles Consigny, avec Abel Boyi, avec Barbara Lefebvre et Frédéric au 32-16. Bienvenue dans les GG, mon cher Frédéric.
Bonjour Olivier, bonjour Alain, il y a Barbara, bonjour Barbara, bonjour.
Bonjour
Abel,
Frédéric.
Bonjour. Alors, bonjour. Qu'en pensez-vous alors de l'Assemblée du budget voté aujourd'hui? Ça y est, crise politique terminée, mission accomplie?
Non mais Alain, enfin vous êtes vous des commentateurs de la vie politique, même des observateurs, Charles même un peu plus par moment, parce que il fait un peu de politique Charles, mais quand même, franchement, on est dans une élection, on est en train de s'apercevoir que Macron il vient de faire deux quinquennats. La seule réforme qu'il aurait pu faire, c'est la réforme des retraites. Il s'est assis dessus. Pourquoi? Parce que la gauche, elle a fait pression, et la gauche, elle a obtenu ce qu'elle voulait avec 4% ou 5% aux dernières élections présidentielles. On est sur des élections présidentielles à deux tours. Et on est en train de s'apercevoir que ça fonctionne pas. Mais c'est normal que ça fonctionne pas. Si tu fais une élection à présidentielle à un tour demain, si c'est Mélenchon qui est premier, c'est Mélenchon qui est premier, c'est comme ça. Donc du coup, là, on est en train de faire un truc. Tout à l'heure, j'entendais Charles qui disait on se dirige vers un deuxième tour, Bardella, admettons que ça soit Bardella-Mélenchon, mais qu'est-ce qui va se passer? Olivier Faure, il va appeler à voter Mélenchon, à peu près, il n'a aucun point commun. Et après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne peut pas fonctionner. Tu t'accordes avec des gens dont tu n'as à peu près rien en accord. bah, tu fais une élection présidentielle à un tour, ça évitera les petits rabibochages au deuxième. Bah, je te file mes voix, mais tu me donnes des postes, on est d'accord sur rien, mais c'est pas grave. Et après, on se dit, bah, le pays, ça fonctionne pas. Le cornu, il dit, j'utilise pas le 49.
Donc, vous auriez préféré la dissolution, quoi, en fait, Frédéric,
mais
c'est
non,
ça.
Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Comment voulez-vous que ça fonctionne, les gars? Enfin, je sais pas, vous êtes plus au fait que moi, quand même.
Moi,
comment
j'ai une proposition, Frédéric. Moi, ouais. Je suis pour une élection à un seul tour.
Présidentielle?
Oui.
Et toutes
les élections?
Bah, l'élection présidentielle à un seul tour, vous réglez le problème. Front républicain, confusion, désistement, etc.
Tout le monde se met d'accord dès le premier tour.
Et donc, tout le monde se met d'accord dès le premier tour. Donc, il y aura moins de candidats, parce qu'il y aura forcément des, à ce moment-là, des alliances, etc. Et au moins, on vote pour. Parce que le problème d'une élection à deux tours, c'est que au premier tour, on vote pour, et puis au deuxième, on vote contre.
Parce qu'il y a,
voilà. Ça
vous irait, Frédéric? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais.
Mais franchement, Alain, est-ce que franchement, on est tous ceux que vous êtes autour de la table, vous pensez pas que si on faisait ça, ça fonctionnerait?
D'abord,
comme
premièrement,
Olivier vient de le dire.
Ça existe ailleurs.
Premièrement, ça existe dans la plupart des démocraties, voilà. C'est à un tour. Merci, deuxièmement, ça ferait des économies.
Aux États-Unis,
parce que
c'est un
vous savez quel est le surcoût de faire deux tours, donc au municipal, aux législatives et aux présidentielles. En effet, on pourrait très bien faire un scrutin à un tour. Et ça permettrait d'aller direct dans le sérieux et de faire des économies.
Il y aurait peut-être des primaires organisées avant dans chaque camp, mais voilà.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le NFP? Bah, franchement, on nous a expliqué que fallait pas voter lui, faut voter lui. Ouais, mais je suis pas d'accord avec lui. Oui, mais c'est pas grave, vaut mieux que tu votes pour lui. Et après, on s'étonne que ça fonctionne. Ça peut pas fonctionner. On en a eu l'exemple aux dernières élections. Le NFP. Ou je sais pas quoi, là, leur socle de gauche qui va de Marine Tondelier aux communistes, aux socialistes, aux centristes, j'en sais rien. Bon, ben voilà, on faut tous aller voter là. Ok, on y va. Puis après, il se passe quoi? Ben, il se passe rien. Et après, c'est parti pour 5 ans. Et ces 5 ans, à l'Assemblée, ça va pas, et je te destitue, et machin, et truc, et on avance pas. Ben, franchement, vous êtes trop intelligent pour savoir que s'il y avait une élection présidentielle à un tour, comme dit Olivier, ça réglerait tous les problèmes. Le gagnant, c'est le gagnant.
Eh ben, Frédéric,
je m'associe avec des potes, quoi.
Ouais, Frédéric, vous dites, il faut passer une élection à un tour. En tout cas, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la manière dont le paysage politique peut-être est en train de se recomposer ou se décomposer pour certains. Et je vous remercie d'avoir été avec nous, Frédéric. On va laisser Sébastien Lecornu et l'Assemblée nationale de côté pour regarder ce qui est en train de se passer à droite. Et là encore, c'est vous qui allez réagir au 32-16 avec, faut regarder du côté de la Haute-Savoie. La victoire du candidat UDR-RN. UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti qui s'est allié avec le Rassemblement National. Il s'appelle Antoine Valentin, il a 33 ans.
Oui, alors c'est intéressant parce que c'est une circonscription, la troisième de Haute-Savoie, qui est une circonscription historiquement à droite. C'était d'ailleurs, avant c'était LR qui avait cette circonscription. Et donc on s'est retrouvé avec un duel entre l'UDR, donc ciotiste, l'alliance UDR-RN et les LR. Il y a eu un front républicain mis en place. La gauche a plutôt appelé à voter LR pour faire barrage aux candidats ciotistes. Et finalement, ça n'a pas fonctionné puisque Antoine Valentin a été élu très facilement dans cette élection. Et donc, ça fait dire à Éric Ciotti que, vous voyez, aujourd'hui, la vraie droite, c'est nous, c'est l'UDR, c'est plus les LR. Et l'UDR doit remplacer LR partout en France. Les LR qui ont été incompréhensibles sur l'épisode budgétaire, avec certains qui disaient il faut censurer, d'autres qui disaient non, surtout pas. On avait bien compris que les députés à l'Assemblée avaient plutôt peur de la dissolution parce que ils sont souvent d'ailleurs menacés par un candidat RN, donc ils n'ont pas voté la censure. Hein, Laurent Wauquiez, qui finalement, là aussi, est en contradiction avec lui-même, puisqu'il apparaît désormais modéré face à un Retailleau qui joue les durs alors qu'il était avant dans le gouvernement, et un gouvernement qui accueille quand même beaucoup de LR aussi. Alors, ils ont été exclus officiellement, mais enfin, ils sont pour tout le monde, étiquette LR. Donc, tout ça, c'est incompréhensible. Les LR sont-ils en train de mourir? C'est là la question qu'on veut se poser.
32-16 pour le dire au Gégé Charles.
Encore?
Oui, moi, je...
En phase terminale?
Non, mais je pense qu'ils font pas le... C'est marrant d'ailleurs, c'est curieux. Ils sont autistes au sens ou plutôt ils sont ils refusent de comprendre que l'époque a changé et que aujourd'hui pour faire de la politique il faut investir TikTok, Instagram et Twitter, il faut réfléchir, mais ça c'est pas nouveau par contre, à des idées nouvelles. Il faut faire monter des jeunes, c'est comme ça, l'époque aime la jeunesse, sans doute à cause des réseaux sociaux, mais il faut quand même qu'ils ouvrent les yeux sur le fait que le favori de l'élection présidentielle a à peine 30 ans. C'est quand même ça, notre époque. Et ils peuvent pas rester indéfiniment dans leur truc.
Au-delà de ça, il y a un problème de positionnement.
Oui, mais il y a pas, oui, mais je pense que, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je pense qu'ils ont un problème global qui s'incarne notamment par cette espèce de surdité à comprendre que leur époque a changé. Je veux dire, quel jeune a fait émerger LR depuis 10 ans? Aucun. Qu'est-ce qu'ils ont fait émerger comme idée nouvelle depuis 10 ans? Aucune. Est-ce qu'ils ont, même refait le logo du parti? C'est pas trop demandé. à une époque de marque, de marketing, etc. Rien. Est-ce qu'ils ont même changé le nom du parti? Je veux dire, Renaissance, ils en sont... Alors, Renaissance, c'est l'extrême inverse, hein. Mais ils en sont à leur 35e nom, un peu comme un gérant de société qui serait condamné pour des faits de nature pénale et qui changerait son nom indéfiniment. Bon, je veux dire, ils font pas le boulot nécessaire. Et donc, ça rejaillit effectivement sur le fond, où ils sont pas clairs. Et surtout, je trouve qu'ils ne mènent plus la bataille des idées. Sans compter leurs députés qui, en fait, ils sont plombés par leurs députés.
Là, on assiste, ça va plus loin, on assiste au grand remplacement, hein, pour reprendre une expression.
Oui, mais les LR sont
oui, mais parce qu'ils la mode. Ils ne font pas le boulot.
Ils sont en train de se faire remplacer par le RN. Hein.
Ils ne font pas le boulot.
Avec Ciotti.
Il n'y a pas que par le RN. Les LR, je pense, sont en train d'être écartelés entre le RN et le bloc central. Aujourd'hui, tu prends Édouard Philippe, il est où? C'est un LR à la base aujourd'hui. Et c'est très difficile.
Il peut être le candidat de la droite et du centre.
C'est extrêmement compliqué. Donc tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a ce sujet de l'union des droites, et ce sont les électeurs qui le feront, que ça plaise ou pas. Quand un électeur de droite voit un candidat dont il n'est pas satisfait, et il voit que c'est le Parti Socialiste qui fait campagne pour lui, ce qui s'est passé là, eh ben, il est allé vers ce qu'il estime être la vraie droite et être un parti anti-système. Aujourd'hui, ce qui fatigue les électeurs, que ce soit de droite comme de gauche, c'est qu'on a affaire à un système qui est pourri, débridé, confus. Donc, l'électeur veut quelque chose qui sorte du lot, quelque chose qui s'affirme contre la vague macroniste, en fait, qui nous a mené vers ce chaos.
On évoquait tout à l'heure avec une des auditrices le fait que beaucoup de maires se présentent là sans étiquette.
Valérie, oui.
On en connaît, j'en connais, des maires qui étaient LR, mais qui sont écœurés, été écœurés de la présence de LR pour sauver Macron. Moi, je vous dis, honnêtement, autour de moi, les LR que je connais m'ont dit le soutien à Macron jusqu'au bout, c'est la dernière des trahisons. Et c'est des gens qui aujourd'hui
c'est
attendent.
C'est ça qui les a fait remonter aussi, donc
oui,
c'est pas si net.
Ces gens-là, c'est des élus locaux, ils vont être réélus sans étiquette.
Ça n'a pas duré longtemps. Hein.
Et quand on sera en 2027, c'est des gens, ils rejoindront pas LR, ils rejoindront Ciotti. Ils ne le rejoignent pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas envie de l'étiquette UDR pour gagner leur mairie ou reprendre leur mairie ou gagner une nouvelle mairie. Mais croyez bien que c'est des gens, moi, autour de moi, j'entends des LR dire, nous, on va finir par aller, ils ont pas envie d'aller au RN, mais ils disent, on finira par
c'est
aller.
Ça. Non, mais c'est aussi, moi, non, mais ça les a fait remonter, Charles, je suis d'accord avec toi, mais ça les a fait remonter. Quand ils pensaient, non, mais justement, c'était avant. Elle remontait quand il y avait Bruno Retailleau dans le gouvernement, en disant voilà, la droite est de retour et elle va imprimer sa marque. En revanche, là, ce qu'on a assisté, c'est au contraire le cornu. Il a dealé avec les socialistes. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est les socialistes ne sont pas au gouvernement. Ils ont obtenu plus que les LR qui y sont.
Et même donc, quand Retailleau y était et qu'il a essayé d'avoir un discours clair sur la question de l'immigration, clair sur la question de l'Algérie, Macron n'a pas cesser de lui mettre des tacles.
Mais Retailleau, il aurait dû, sans doute, politiquement, il aurait dû rester au gouvernement. Ça, c'est.
Et assumer ça?
Pour continuer à faire marcher dessus.
J'en sais rien, mais. Ou alors le quitter, justement, sur un mauvais budget plutôt que sur la nomination de Bruno Le Maire. Exactement. Même si c'est vrai que c'était curieux de la part de Le Cornu. Bon, c'était pas. Enfin, je pense qu'il aurait dû jouer autrement, mais c'est facile de refaire le match après.
C'est quoi la
ligne? Exactement. Moi, je pense qu'ils ont.
C'est ça le problème.
Moi, je pense qu'ils ont.
Retailleau aussi, on sait ce qu'ils pensent.
Ils ont un problème d'offres. Ils ont un problème d'offres, à mon sens. Par exemple, les Français veulent aujourd'hui, il n'y a pas que l'immigration et la sécurité qui les passionne, qui est un thème quand même très préempté par le RN ou par Ciotti. Il y a aussi l'économie, le poids de la fiscalité, le poids de l'État dans la société, etc. Il ne faut pas croire que moi, ça me fascine, ces politiques qui pensent que les thèmes et les idées sont complètement immuables et qu'il ne peut pas y avoir une idée qui monte et une autre qui descend selon les époques. On sait qu'il y a des époques, il y a des modes, il y a aussi des problèmes qui se font plus ou moins pressant. Aujourd'hui, un des gros problèmes de la France, c'est l'obésité de sa puissance publique et le niveau de ses prélèvements obligatoires. Je pense qu'ils auraient par exemple dû travailler davantage sur ce thème, essayer de capter ce thème.
Le problème, c'est que la droite au pouvoir, elle continue à dépenser aussi qu'elle, l'argent qu'elle n'a pas.
Oui, mais or, qu'est-ce qu'ils ont fait quand on les écoute? Moi, ça me chagrine d'ailleurs. C'est un peu bateau à dire, mais ils courent après le RN. En réalité, même si c'est un truc bateau de dit comme ça, mais c'est vrai, ils essayent de coller au maximum à ce que disent Ciotti, Bardella et compagnie sur les questions de sécurité et d'immigration, en espérant comme ça retenir des électeurs.
À
mon avis, c'est une mauvaise stratégie. Je pense qu'ils auraient
Le seul moyen pour LR aussi de sortir peut-être une idée nouvelle et de challenger aussi un peu le RN qui ne s'y attaque pas vraiment, c'est d'être un vrai parti qui s'attaque à l'état profond. Parce que si tu t'attaques pas à l'état profond, parce que c'est ça que fait
Trump. Quoi, l'état profond?
L'état profond, c'est l'administration.
Les agences.
Bête et méchante, qui est un espèce de fossile sédimenté, qui est un roc que tu peux pas fissurer. Et ça, c'est l'état profond. Et l'état profond, ça existe. Oui, oui. C'est cet administre. Et en France, il est hyper fort. Trump, ça a été sa grande action, ça a été de s'attaquer à l'état profond dans les états fédérés et à l'état profond fédéral. Il y arrive avec sa technique, avec sa violence, avec peu importe, c'est le modèle Trump. Milei, il le fait aussi, il s'attaque à l'état profond argentin qui lui, par ailleurs, était corrompu. En France, il y a un état profond qui dirige, c'est l'administration centrale. Et les ministres, parfois, ils n'y arrivent pas parce que vous avez les administrations qui résistent. C'est là-dessus, par exemple, que LR pourrait faire la différence. Parce que le RN, vous les entendez pas beaucoup sur la question de l'état profond.
Mais justement,
donc là, le LR pourrait se faire entendre. Mais en réalité, ils ont gouverné avec l'état profond quand ils ont été au pouvoir. Ils ont été d'accord avec les administrations, parfois noyautées par la gauche, et ils ont été obligés de gouverner avec des administrations
La question est posée, est-ce que les Républicains sont en voie de disparition avec la victoire d'Antoine Valentin? C'est le candidat UDR-RN de 33 ans qui a gagné l'élection en Haute-Savoie. Pour le moment, on est sur un oui à 94%. On voit mal ce qui pourrait changer la donne, mais bon... est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, l'avenir de la droite, c'est plutôt l'alliance d'Éric Ciotti-UDR avec le Rassemblement National, 32-16, pour venir en discuter avec les grandes gueules? Les GG Charles Consigny, Abel Boyer, Barbara Lefebvre ont lancé le débat.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, avec vous, on continue la discussion. Abel Boyer, l'éducateur, Charles Consigny, l'avocat, et Barbara Lefebvre, l'enseignante. On continue la discussion à propos du climat politique du moment. Alors, on a eu deux phases dans cette discussion politique au cours de la deuxième heure des GG. On a évoqué l'Assemblée nationale, le vote définitif du budget aujourd'hui, et savoir si on était sorti de la crise politique. Et puis l'autre phase, c'est voir à l'approche des élections municipales, comment le paysage politique aussi se recompose en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la législative partielle en Haute-Savoie, c'est un candidat UDR-RN, c'est-à-dire le parti d'Éric Ciotti, jeune en plus, hein, 33 ans, qui a gagné et bien gagné. Est-ce que ça veut dire que pour les sieurs Retailleau et Wauquiez, eh bien, l'horloge de l'extinction commence à tourner? C'est Jérémy qui va en discuter avec nous. Il est pilote de ligne. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue, Jérémy. Qu'est-ce que vous en dites, alors?
Bah, écoutez, je pense que Barbara et Charles ont bien résumé la situation. C'est-à-dire que moi, je suis traditionnellement électeur de la droite, ce qu'ils appellent de gouvernement, de LR, mais en fait, quand je vote LR, j'ai pas envie de voter Macron ni socialiste. Et finalement, ben, quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée, notamment pour le budget, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qui se passe. Et je suis pas là pour sauver les postes des LR. Ce qui m'intéresse, c'est les idées qu'ils défendent. Et au final, je me rends compte que, ben, elles pèsent bien peu de choses quand il s'agit de la réalité de garder son poste.
Mais on peut imaginer qu'il n'y ait pas de candidat LR à la présidentielle. Moi, je peux faire ce pari. Je pense que si Édouard Philippe est le candidat de la droite et du centre, et Jordan Bardella ou Marine Le Pen est le candidat ou la candidate du RN, je vois pas d'espace pour les LR, je vois pas d'espace pour Bruno Retailleau. Et s'il y va, il fera moins de 5%. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de candidat LR à ce moment-là. Soit ils choisissent, alors à mon avis, ils choisiront plutôt Édouard Philippe qu'à ce moment-là que Jordan Bardella. Mais il y aura un ralliement avec Édouard Philippe. Parce que aujourd'hui, les LR sont en seconde division.
Et justement, Jérémy,
ils ne jouent pas la victoire.
Pour vous, qui incarne LR aujourd'hui, franchement, ou la droite que vous aimez, pour laquelle vous avez l'habitude de voter, alors, Jérémy?
La droite que j'aime, bah écoutez, je crois que l'offre politique, elle s'est quand même bien effacée actuellement. Alors éventuellement, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout une certaine défense des idées économiques et d'une... je vais peut-être pas aller jusqu'à la tronçonneuse, mais on va peut-être être obligé d'y arriver. Et, et quand les LR sont sur les plateaux, d'ailleurs, hein, ils le demandent. Hein, quand il s'agit de le voter, ils le font pas. Mais qui reste justement? Est-ce que Ciotti, finalement, il fait peut-être la balance entre tout ça? Peut-être que...
Dans tous les cas, pour vous, ce n'est plus Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, quoi.
Mais Bruno Retailleau, la légitimité qu'il va pouvoir avoir sur un plateau, sur un débat, quand il faisait partie du gouvernement Macron, pour expliquer que finalement, voilà, il veut défendre une autre politique, ça me semble compliqué.
Et voilà.
Oui, après, ouais, il a défendu quand même sa ligne en tant que ministre. Il ne faut pas non plus charger la barque excessivement. Il a quand même été un ministre de rupture par rapport à ce qui se faisait avant.
Il est même monté au créneau parfois contre Macron.
Exactement. Et d'ailleurs, Macron l'a très vite pris en grippe. Oui. Après l'avoir apprécié dans un premier temps, il a très vite voulu s'en débarrasser. Et il a fait exister une ligne. C'est marrant parce qu'on est très vite amnésique avec la politique, mais il a été un ministre de l'Intérieur très singulier. Et qui a réussi à exister dans le job comme peu avaient réussi avant. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, les résultats qui sont publiés ces derniers temps sont pas mauvais en réalité.
Recul des naturalisations, léger recul de l'immigration. Bon,
c'était quand même un ministre sans tabou, etc. Non, c'est pas voilà. Et puis par ailleurs, il a quitté le gouvernement justement sur un désaccord avec la nomination de quelqu'un qui, selon lui, incarnait la shérif des finances publiques, l'échec du macronisme, etc. Donc, non plus complètement incohérent ni mauvais.
Allez-y, Jérémy, pardon.
C'est pas lui qu'il faut blâmer, je pense.
Charles a raison. Je pense que parmi LR, c'est sûrement Retailleau qui représente le plus ce que j'aime au sein des LR. Mais il est où aujourd'hui? Enfin, c'est a priori, c'est Wauquiez qui a décidé que finalement,
oui, mais voyez,
il serait voté.
Oui, mais le péché originel, le péché originel est à l'Assemblée, Jérémy.
Eh oui, le péché originel. Vous savez où il est aussi? C'est quand M. Wauquiez.
C'est les 18 députés LR qui n'ont pas fait tomber le cornu sur le budget de la sécurité sociale. Pardon.
Mais pourquoi
et sur quoi? Sur la suspension de la réforme des retraites. Il y a 18 députés LR qui ont sauvé la tête de le cornu. Et à mon avis, ces 18 députés portent aujourd'hui la défaite du candidat LR en Haute-Savoie.
Quand le cornu est arrivé et qu'il a mis sur la table l'idée pas de 49-3, on discute. Monsieur Wauquiez, avant même que Monsieur Faure ne parle, Monsieur Wauquiez a dit, nous, il n'y a pas de problème, on est d'accord pour tout. On n'a pas d'exigence. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Faure? Il a dit, ah bon, bah très bien, si elle n'a pas d'exigence, nous, on en a. Et c'est Faure qui a dicté ce qu'il voulait à Le Cornu. Pourquoi? Parce que dès le départ, Wauquiez a dit, nous, on censurera pas, on censurera pas, on censurera pas. Si tu n'arrives pas à être dans le rapport de force, alors que tu peux peser, eh ben, Faure l'a fait à sa place. Donc, Wauquiez a été nul d'un point de vue stratégique. Pourquoi? C'est même à croire que Wauquiez, moi, je vais vous dire, il y a un moment, demande si Wauquiez ne veut pas que LR s'écrabouille pour essayer de finalement rejoindre.
C'est pas de la stratégie, c'est que son groupe est divisé. C'est-à-dire qu'il y a une partie des LR de son groupe qui voulait censurer le cornu et une autre qui, à mon avis, a fait les comptes. Hein, s'il y avait dissolution, c'était les gens qui étaient battus. Donc, qui a sauvé le cornu. Et évoqué, a essayé de tenir compte de tout ça.
C'est un parti qui est écartelé entre le groupe central et le rassemblement.
C'est un parti qui a toujours été noyauté par les chapelles.
Et puis, l'autre chose aussi, c'est que nous, on regarde avec une certaine technique. Mais toi, à la place de l'électeur lambda qui a entendu tous les responsables LR dézinguer Macron pendant des années, qui sont ensuite rentrés dans le gouvernement, qui sont ressortis, qui font des magouilles avec. Plus tu rajoutes le spectacle à l'Assemblée nationale, c'est de la confusion. Donc ils se disent que LR est devenu un parti qui n'a plus de conviction. Et surtout, quand tu te rappelles quels ont été les grands leaders de LR, exactement, c'était le grand parti. Aujourd'hui, il n'y a plus rien et il va être dissous dans l'eau à la fois du Rassemblement National et du groupe macroniste. Il ne restera plus rien.
C'est l'effacement de Fillon qui les a flingués définitivement. Fillon, il n'aurait pas eu ces histoires de
avec
Pénélope
son épouse,
avec son épouse.
Et de costumes.
Costumes, on sait qui c'est qui a envoyé M. Bourgi, Nicolas Sarkozy. D'accord. Donc ça, c'était les règlements de compte internes à LR pour finir de mettre les clous sur le cercueil de Fillon. Mais Fillon, il était parti pour être élu. Donc à partir du moment où le leader, le chef Fillon, qui donnait un peu d'espoir à la droite, de cette droite libérale, etc., s'est effondré. Derrière, ils n'ont pas pensé une seconde à qu'est-ce qu'on pouvait reconstruire. Ils ont pensé qu'il y a une seule chose, c'est d'aller bouffer chez Macron.
Non, mais c'est pas ça. Mais Emmanuel Macron, assez habilement, a réussi, surtout en 2022, à être le candidat de droite. Pourquoi Pécresse passe de 20 à 4%? C'est parce que les électeurs de droite votent utile et votent Macron. Ils avaient peur que Mélenchon arrive au second tour. Et donc, ils se sont dit, votons dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Je reviens à mon idée d'une élection présidentielle à un tour. Les choses seraient plus simples.
Jérémy, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Jérémy, à bientôt sur RMC pour de nouvelles discussions. Merci Jérémy. David, pour terminer, qui est dans Lyon, qui est conducteur routier. Bonjour David.
Bonjour les GG. Bonjour à tous.
La droite LR, ils sont en voie de disparition ou ils sont morts d'ores et déjà?
Ah non, mais ils sont morts depuis, pas depuis longtemps, mais moi ils sont morts déjà depuis Sarko. J'ai jamais réussi à lui pardonner le traité de Lisbonne, ça je l'ai en travers de la gorge et je l'aurai toujours. Ah. Et pour le reste, vous voyez bien, c'est trahison plus que trahison. Ils ont toujours trahi les Français dans tout ce qu'ils ont proposé. Et quand vous voyez Monsieur Retailleau, quelle légitimité il va avoir? Il est même pas, je suis vraiment désolé pour lui, mais il est même pas foutu d'être patron de son propre parti parce que c'est lui qui a gagné les élections internes et Wauquiez lui crache dans le dos.
Exactement.
Je veux dire, il demande à voter la censure et Wauquiez dit non. Alors que Wauquiez voulait pas aller au gouvernement, après il a voulu que Retailleau y aille. En fait, ils se tirent des balles dans le dos tous les deux. Et en fait, on voit le résultat. Ils sont lamentables. Ils sont minables. Franchement, ils sont écœurants.
Et donc, pour vous aujourd'hui.
Et je suis content que Ciotti ait rejoint le RN parce que je sais que la ligne économique de Ciotti, elle se rapproche plus du côté LR. Et moi, je vote RN, mais j'ai un peu de mal avec je suis pas trop. Comment il se situe au point de vue économique, c'est assez confus.
Mais ça, personne ne sait, en fait.
Oui, et si Ciotti peut les faire réfléchir sur certains sujets économiques, ça pourrait être que mieux.
Mais de toute façon, vous savez, David, in fine, le RN, pour gouverner, ils seront obligés d'avoir des alliés, et leurs alliés, c'est l'UDR de Ciotti, qui est libéral, c'est Reconquête de Cnafo, qui est libéral, c'est Marion Maréchal, Identité Liberté, qui est libéral. Donc à un moment donné, leur ligne économique, ils seront bien obligés de l'infléchir, et il y aura en plus la réalité économique qui s'imposera à eux. Donc,
qui s'imposera à tous les candidats gauche comme de droite, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, il va falloir faire des économies, réduire la dette, le déficit.
Ce qui est plutôt intéressant,
ça sera l'enjeu
de
2027.
C'est que les enquêtes d'opinion montrent que les électeurs sont plutôt pour cette union des droites, d'ailleurs.
Mais ça, ils l'ont toujours été, hein.
Toujours. Ils l'ont toujours été, mais sauf que chaque parti n'en veut pas. Ou tout du moins.
C'est-à-dire
pas
que c'est amusant
manière.
Parce que, à gauche, c'est plus un souci. C'est-à-dire que les électeurs de gauche, entre Mélenchon, un électeur, on va dire, socialiste bontain, si c'est Mélenchon, Bardella, il n'hésite pas une seconde, il vote Mélenchon, même s'il n'aime pas Mélenchon. Je veux dire, à gauche, il n'y a jamais eu vraiment de question. Il y a toujours eu, à un moment donné, les électeurs de gauche se retrouvent, notamment face à la menace.
Face à la menace du RN. Et ça ne marchera plus, ça, la mobilisation antifasciste.
Et à droite, il y a des pudeurs. C'est-à-dire que même face à Mélenchon, vous verrez, s'il y avait un second tour Mélenchon-Bardella, vous verrez, tout l'électorat de droite n'appellera pas à voter Bardella. Il y aura un électorat de droite qui dira, peut-être qu'avec Mélenchon,
même monsieur Attal ou madame Borne iront nous dire, sans le dire, qu'il faut voter Mélenchon parce qu'ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ils n'ont pas honte.
David, qu'est-ce que vous voulez ajouter?
Ils n'ont pas honte, c'est leur conviction.
Dans la législative partielle, on voit bien, parce que même là, il y a eu un espèce de barrage républicain et ils ont appelé les électeurs de droite à ne pas voter l'UDR. Mais ils en ont pas tenu compte, ils ont voté UDR. Donc je pense que là le vent est en train de tourner et moi je serais les LR, j'aurais vraiment du souci à me faire, vraiment, parce que je pense que ça va piquer.
Eh ben David, ça pique d'autant plus qu'il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisqu'on a posé la question, est-ce que pour vous les Républicains sont en voie de disparition? On a même monté d'un point, on est à 95,7%. Voilà, verdict sans appel
vente, hein, je pense déjà.
Pour ceux qui suivent les GG et qui sont allés voter sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on attaque la troisième heure des Grandes Gueules avec un face au GG qui vient du 32-16, c'est Eshan qui est arrivé en France. Il a quitté l'Iran, il avait 12-13 ans. Il est arrivé en France à parler de la situation de son pays. Il aimerait que les Américains interviennent. Et il sera notre invité, l'invité des GG, dans un instant.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.